En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bonjour. Pourquoi les régions polaires sont-elles importantes dans le changement climatique ? Comment la communauté internationale peut-elle s'organiser pour répondre aux enjeux écologiques actuels ? Quel rôle les gouvernances peuvent-elles jouer dans les pôles ? C'est autour de ces questions que se sont penchés les scientifiques au cours des deux dernières années, lors de la quatrième année polaire internationale. L'année polaire est un événement important qui a lieu tous les 50 ans. Il permet aux scientifiques, mais également aux gouvernements, de prendre connaissance des dernières recherches sur les zones polaires. Cette quatrième année polaire internationale est bien entendu primordiale, puisqu'elle met l'accent sur le réchauffement climatique. Réchauffement qui est 2 à 3 fois plus important sur les pôles que dans le reste du monde. Si cette problématique d'urgence écologique n'était pas prise à temps, elle entraînerait irrémédiablement une fonte des calottes glaciaires. Fonte qui engendrerait une augmentation de moins 7 mètres, le niveau mondial des mers par rapport au niveau actuel. Dans cette deuxième retransmission consacrée à la clôture de cette année polaire, vous allez pouvoir écouter les premiers éléments de réponse sur les solutions entreprises par les gouvernances politiques et scientifiques. Ainsi, le Dr Karl Herb, directeur des programmes polaires de la National Science Foundation, le professeur Jean-Yves Ledéo, député et vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et le Dr Gérard Jugy, directeur de l'Institut Paul-Émile Victor, reviendront sur ces enjeux écologiques.
On m'a demandé d'intervenir donc sur la gouvernance scientifique, plus que sur la science elle-même. Ça m'est quand même l'occasion de dire que pour ce qui est alors sur le changement climatique, sur les aspects changement climatique, la gouvernance scientifique, donc simplement pour redire que demain matin, une séance complète, disons la matinée sera largement consacrée au problème, non pas simplement du changement climatique, donc, mais climat, glace et océan, donc avec, disons, sous la présidence d'Edouard Barre en particulier, Jérôme Chaplaz, Jean-Claude Gascard, Frédéric Rémy qui sont là et Thomas Tucker qui fera une synthèse. Donc je vous invite évidemment à être là. Donc mon propos n'est pas trop de parler de science, mais en gros, j'ai essayé de le dire, comment on s'organise, comment nous sommes organisés, disons cette communauté climat qui s'intéresse au changement climatique et à la fois aux régions polaires. C'est un peu ça. Je ne peux quand même pas ne pas redire bon, pourquoi les régions polaires sont vraiment très importantes dans ce contexte de changement climatique. Il y a vraiment différentes raisons. Les régions polaires sont vraiment un témoin de tout premier ordre des changements climatiques. Ce qu'a dit Michel Rocard, vous le voyez là. Hein, le réchauffement climatique est de 2 à 3 fois plus important dans l'Arctique que, disons, en moyenne globale. Puis ce sont des archives uniques, hein, les glaces polaires, mais également les sédiments marins. Hein, il y a aussi d'autres archives géomorphologiques du changement climatique. C'est un acteur du changement climatique, donc là ce sont des points qui seront évoqués plutôt demain. Hein. Donc, pour ce qui concerne le niveau de la mer, la circulation atmosphérique, les changements très rapides aussi de circulation atmosphérique, tout le problème de la glace de mer et de l'enneigement, du permafrost, des cycles biogéochimiques, la chimie atmosphérique et puis du lien climat-ozone, en particulier au niveau du changement climatique. Et ce sont des régions déjà très vulnérables. Hein, quand le GIEC parle des régions vulnérables, eh bien c'est l'Afrique, les régions côtières et l'Arctique. Disons, il y a beaucoup de choses. Alors comment c'est organisé ? Alors le premier point, en gros, notre science, notre domaine de recherche est organisé à peu près comme dans tous les domaines de recherche, je pense, hein, sur le plan de la recherche. Tout ça, vous organisez. Bon, je crois que ça s'appuie quand même sur le dynamisme des équipes de recherche impliquées et puis des organismes qui les soutiennent. Il y a une organisation, coordination qui est tout à fait nécessaire, et puis bien sûr des financements. Donc c'est au niveau soit national, soit européen, soit international. Bon, par exemple, les financements deviennent de plus en plus difficiles dans nos domaines au niveau européen, hein, c'est vrai. Et au niveau de coordination, eh bien, c'est vrai que je suis très heureux d'avoir Catherine ici au niveau de l'INSU. Hein. Donc voilà, il y a toute une liste, disons, d'organisations qui ont des liens avec l'INSU. Quoi. Bien sûr, c'était plutôt un projet pour l'année polaire internationale, aussi, qui dépend aussi de l'OMM. C'est bien d'avoir Michel et Catherine ici. Bon, et puis des organisations plus spécifiques au niveau de l'Antarctique, le SCAR, au niveau de l'Arctique, l'International Arctic Science Committee, mais il y a aussi, l'International Association of Cryospheric Sciences, qui en fait ces trois organisations ont des liens un peu. Au niveau du programme mondial de recherche sur le climat, c'est donc ça s'appelle Climat et Cryosphère, CLIC. Et puis voilà, au niveau de l'IGBP, il y a bon, ceux qui s'intéressent aux nuages du passé, à la chimie atmosphérique, donc on pourrait faire une liste plus grande. Mais donc on a bien ce tissu d'organisations vers lesquelles nous pouvons nous tourner, nous, la communauté scientifique, disons, pour organiser des projets, hein, et puis aussi au niveau européen. Donc les projets sont internationaux par essence, pratiquement systématiquement, ça c'est aussi classique. Il y a des aspects logistiques spécifiques, hein, ça c'est clair, et là je tiens à souligner le rôle clé de l'IPEM en France. Si je crois que notre communauté est bien présente dans ces problèmes de recherche en région polaire, c'est bien parce qu'il y a l'IPEM, hein, je crois, et les organismes qui le soutiennent. Bon, je crois qu'au niveau des résultats, on a une bonne visibilité. Alors là où ça devient un peu spécifique, hein, par rapport à d'autres domaines peut-être, disons d'autres domaines scientifiques qui n'ont peut-être pas cette même urgence de l'action, hein, c'est qu'on est face à un problème sur lequel il faut une action. Hein, Michel Rocard l'a redit. Et cette action, elle se déroule en fait en deux étapes suivantes. Il y a l'étape du diagnostic, hein, donc ça c'est très important, hein, c'est le rôle du GIEC, mais le rôle du GIEC se limite à cela. C'est important, le GIEC dans ce groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et son rôle, vraiment, c'est de faire un diagnostic sur l'ensemble des problèmes liés au changement climatique. Ce n'est pas vraiment de dire aux politiques, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est de leur dire, si vous faites ça, voilà ce qui risque d'arriver. Et si, au contraire, vous prenez une autre direction, voilà ce qui risque d'arriver. C'est ça le rôle du GIEC, il est très important. Parce que en face, eh bien, le monde politique s'est d'une certaine façon organisé, lui, à travers la Convention climat, signée à Rio en 92. Et ce qui fonctionne bien, eh bien, c'est que bon, l'espoir de cette dualité GIEC-Convention climat, quand ça a été mis sur pied, donc le GIEC en 88, donc avec l'OMM et puis l'UNEP comme parrain, hein, et puis la Convention climat quelques années plus tard, eh bien, c'était qu'effectivement le monde politique qui se retrouve chaque année dans ce qu'on appelle les conférences des partis s'appuie sur les rapports du GIEC pour prendre ou éventuellement ne pas prendre de décision. C'est ça le mécanisme qui marche très bien parce qu'on pense qu'il y a des décisions à prendre. Et ce mécanisme, effectivement, bien, c'est toute cette chaîne. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, dans le rapport du GIEC, tout ce qui se passe en région polaire est appelé à prendre plutôt plus d'importance, comme le niveau de la mer, où il y a beaucoup d'incertitudes, le comportement des grands glaciers vont être centraux dans le cinquième rapport du GIEC, de même sur tous les problèmes de permafrost, de circulation océanique, tout ce que j'ai cité, ça va prendre certainement une très belle place dans le prochain rapport du GIEC. Bon, bien sûr, il y a aussi, donc l'action, elle ne passe pas que par la Convention internationale. On espère que ça sera, disons, ambitieux en fin d'année à Copenhague. Mais sur le plan européen, il y a eu le paquet climat-énergie ratifié sous la présidence française, le Grenelle de l'environnement au niveau français. Tout ça se met en marche. Il se met quand même en marche avec une présence des scientifiques, du monde scientifique, hein, c'est ça que je veux dire. Et puis, bon, une chose que je ne peux pas ne pas soutenir ici, c'est vraiment l'importance de l'observation dans ces régions arctiques et antarctiques. Hein, je crois que là, bon, les choses se mettent en place. L'observatoire de l'Arctique se met en place. Et puis, au niveau international, le SAON. Donc, simplement, je termine par... Eh bien, le problème de l'Arctique, c'est que si on regarde à la fin du siècle, eh bien, ce problème d'amplification polaire va subsister. Hein, il y aura aussi des réchauffements de 2 à 3 fois plus élevés qu'en moyenne globale. Hein, pour un réchauffement de 2,8 degrés, c'est plutôt 6-7 degrés dans les régions polaires. Ça, c'est un point qu'on a au moins en Arctique. Ensuite, bien sûr, un hommage aux données du passé, parce que bon, il est important de s'appuyer sur le passé. On aurait pu montrer d'autres choses. Là, c'est l'enregistrement de Vostok. On a maintenant 800 000 ans. Il y a tous les problèmes de variation climatique rapide. Ce dont parlera Jean-Claude Gascard demain, c'est la diminution rapide de la glace de mer. Un autre exemple qui vient de le dernier exemple qui est de en 2008, c'était pratiquement le même niveau que 2007. Et puis un point qui émerge actuellement, c'est quand on voit cette amplification du réchauffement en Arctique, elle est liée en partie à la diminution de la glace de mer, à la diminution de l'abaissement, c'est-à-dire la modification de l'albédo. Mais cet albédo est également modifié par le carbone suie, hein, et on pense que par la chimie atmosphérique, tout ce qui se dépose, la pollution, hein, joue un rôle probablement important. Donc l'IGAC veut faire passer directement dans la discussion de Copenhague, c'est-à-dire cette possibilité de jouer sur la diminution de la pollution très rapide pour contrer une partie du réchauffement climatique. Voilà, j'arrêterai là. Donc c'est pour montrer cette continuité entre disons, le travail du chercheur et, je l'espère, disons, là où on va au point de vue des décisions politiques et de la façon dont ça fonctionne.
Donc bien sûr, nous parlons des régions polaires, les voici, l'Arctique et l'Antarctique, le continent de l'Antarctique qui est plus important que les États-Unis et que bon nombre de continents avec des zones où bon nombre de personnes habitent en cette période de changement. Rien ne peut être plus important que cette collaboration internationale pour l'année polaire. La Fondation pour la science nationale aux États-Unis a pour but honte d'être l'agence leader dans cette coopération. Je dois dire que ça a été une aventure fantastique de coopérer. Nous avons évalué des propositions de scientifiques durant cette année et nous avons voulu nous assurer que nous avons créé un héritage de partenariat, pas seulement pour les scientifiques d'aujourd'hui, mais aussi pour les étudiants de leurs étudiants qui continueront dans 20 ans, dans 40 ans. Donc nous avons dit à qui que ce soit qui souhaitait proposer à la Fondation de la Science nationale de nous expliquer comment elle pouvait coopérer avec des collègues d'autres pays. Et nous avons fini avec des scientifiques qui nous présentaient des projets que nous avons soutenus, des projets de coopération avec des scientifiques de 27 autres pays. Donc voilà, ça, il y en a d'autres, mais ça, c'est ceux que nous avons soutenus. Jean a montré la même image du globe. Il nous a montré ce que ça pourrait être dans 100 ans. Voilà ce qu'il en était il y a 2 ans, et là, certaines parties du globe changent bien plus rapidement que d'autres. L'Arctique, par exemple, comme vous voyez ici, avec cette couleur, mais aussi la péninsule Antarctique. Vous voyez la pointe qui touche l'Amérique du Sud, et bien c'est la partie qui se réchauffe le plus rapidement sur le globe. Voici un exemple de changement climatique en Antarctique. Ceci se trouve près d'une station de recherche que nous faisons fonctionner sur la péninsule avec des informations qui représentent une période de 20 ans. Jean nous a aussi montré ce qui s'est passé dans l'Arctique avec les changements en termes de glaciers. Vous voyez une baisse de la quantité de glaciers de façon permanente et régulière. On a des endroits où il y a une petite augmentation, mais c'est l'épaisseur à ce moment-là qui décroît. Et vous voyez qu'il s'agit d'habitats dont bon nombre d'organismes dépendent pour leur survie, comme par exemple les ours polaires ou même simplement les êtres humains. Voici certaines des espèces dont la vie a été changée radicalement par ces modifications. Par exemple, vous voyez un ours polaire et les difficultés que ça représente pour élever leurs petits, des pingouins qui ne trouvent peut-être pas la nourriture dont ils ont besoin pour pouvoir survivre. Les sociétés humaines aussi sont affectées de façon majeure. Ici, il s'agit de l'Alaska, une zone où la survie des gens dépend de la capture de phoques. Cette capacité a disparu avec les changements qui ont eu lieu en Arctique. Donc ils ont dû se déplacer vers ces environnements où ils finissent par acheter leur nourriture dans des supermarchés. Donc leur culture a changé catégoriquement. Et ces communautés inuites traversent de grandes difficultés et ne savent comment aller de l'avant. Ces communautés sont très fières de leur capacité à s'adapter. Ça fait partie de leur culture. Mais le climat change très rapidement qu'il va leur être difficile de s'adapter au même rythme. Je voulais simplement aussi vous montrer cette image maintenant pour en venir au sud et à l'Antarctique. Il s'agit d'une partie qui change bien plus rapidement que d'autres parties du monde. Vous voyez, ceci a été publié cet été. Jusque-là, il y a toute une partie de l'Antarctique qui se réchauffait légèrement et qui avait commencé à refroidir jusqu'à ce que ces résultats soient publiés. Pourquoi n'en savons-nous pas plus? Eh bien, l'une des raisons est que après le IGY de 1958, nous avons établi des systèmes de mesure, mais nous ne les avons pas maintenus. Donc, nous avons eu certains repères, mais nous n'avons eu que 3 stations qui ont fonctionné sur le long terme pour mener ces mesures. Et nous espérons sans aucun doute pouvoir arriver à faire mieux.
Eh bien, laissez-moi revenir 170 ans en arrière. Je crois que c'est 1840, là. En France et aux États-Unis, nous explorions tous deux l'Antarctique. Du côté gauche, vous voyez l'Astrolabe et le zélé. L'exploration du mont d'Urville, la côte a été nommée par lui, et l'expédition de Charles Wilkes. Et donc, un de ses navires portait le nom d'un lieu proche de Paris qui s'appelle Vincennes. Et donc, ils étaient à 2500 km des côtes, et il a conclu que l'Antarctique était un continent après avoir fait le tour. Et je pense qu'on peut dire que ces deux explorateurs étaient en concurrence. Ce n'était pas une compétition, une concurrence économique, mais tous les deux étaient à la recherche de découvrir quelque chose. C'était des temps assez extraordinaires. Mais quand on passe au présent, 170 ans plus tard, on peut parler de collaboration. Cela montre les routes. Les deux stations de recherche les plus modernes sont dans la partie intérieure de l'Antarctique. Au nord, c'est la station Concordia et la station Amundsen-Scott. Et ces deux stations ont été mises en place ces dernières années. Ça a pu faire des avancées à la recherche. Je voudrais aussi mettre l'accent sur le fait que dans ces stations, il y a deux pays qui ont échangé librement de l'information, ce qui nous a évité de faire des erreurs. Bon, il y a eu une question d'avancée technologique et nous avons pu bénéficier des avancées de chacune des deux parties. Là, c'est ce que nous sommes en train de faire, le docteur Gérard Jugé, moi-même. La station vous souhaite la bienvenue. Eh bien, c'est effectivement l'esprit dans lequel nous œuvrons. Mais je n'ai pas pu résister à revenir un petit peu en arrière. Dans le temps, la France, la Russie et les États-Unis, leurs chercheurs ont travaillé ensemble, dirigés par nos collègues français Claude et Jean, et nous avons fait des expériences historiques qui ont montré la très forte corrélation entre le changement climatique, les effets de serre, sur 400 000 ans. C'est une démonstration extrêmement claire lorsque on tente de démontrer ce que fait l'effet de serre. Notre collaboration que nous avons commencé avec Données Polaires Internationales, c'est ce projet Concordia-ci, qui, entre autres, nous donne une meilleure compréhension de la façon dont les courants de la haute atmosphère influencent la couche d'ozone. Et comme je l'ai dit, c'est une expérience avec la PAV et le CNRS. Et je pensais que nous aurions pu faire repartir cette expérience cet été, mais je crois que ce sera l'année prochaine. Autre avancée au cours de cette année, c'est la couverture glaciaire du Groenland. Ça, c'est des mesures satellitaires qui nous montrent clairement que la couche de glace est en train de fondre. Je n'ai pas tellement de temps de vous expliquer tout cela, mais les différentes couleurs montrent que les glaciers montaient de plus en plus haut. Donc les zones les plus hautes sont toujours couvertes de glace. Mais depuis, nous avons fait des mesures avec des instruments météorologiques et je suis ravi de dire qu'avec le Groenland, nous avons fait le premier lien entre l'Organisation météorologique mondiale, un projet de la NASA, des instruments comme ceux que vous voyez ici, deviendront des instruments de mesure officiels de l'Organisation mondiale de la météorologie, de l'OMM. Et donc voilà une preuve des liens qui ont pu être tissés entre des agences de recherche et des agences opérationnelles. Donc en été, le soleil crée des réserves d'eau très importantes. Et cette eau s'infiltre et va jusqu'au centre du continent. On a cru pendant longtemps que c'est une possibilité, c'est une hypothèse sur l'avancée des glaciers, que cette eau s'infiltrait et faisait et poussait les glaciers, qu'elle accélérait d'une certaine manière la fonte des glaciers. Eh bien, je vous pas vous montrer de photos là-dessus, mais les chercheurs se sont aperçus que les pêcheurs récoltaient des données sur les températures de l'eau depuis très très longtemps. Donc comme ça, ils pouvaient savoir à l'avance dans quelle région aller pêcher en prenant la température de l'eau. Ils ont fait le lien entre les communautés locales de pêcheurs et le centre météorologique danois. Et on a montré qu'il y avait une corrélation extrêmement forte entre l'évaporation des glaciers et les températures de l'eau. Donc c'est un exemple classique, il n'y en a pas tellement en fait, mais il faut faire attention à cela. Un exemple classique comment une combinaison de connaissances indigènes ou autochtones et des communautés scientifiques occidentales peuvent fournir des avancées scientifiques extrêmement importantes. Donc, relier les changements de température de l'eau avec les données que nous avions recueillies sur les glaciers nous permet de mieux comprendre la façon dont les choses se passent dans l'atmosphère. Tournons-nous vers les océans maintenant. Vous pouvez voir le Groenland ici. Ces hexagones montrent où les scientifiques américains se sont développés. Les rouges, ce qu'on peut appeler le Nord-Ouest, c'est un projet que nous avons subventionné. Et c'est un projet qui est organisé et géré par les communautés locale. Donc je crois, peut-être pas en Sibérie, mais certainement en Alaska, pour faire ces mesures. Et ces mesures sont liées à d'autres projets scientifiques.
Donc j'ai rentré dans ce graphe d'autres éléments qui correspondent à d'autres projets. Et vous voyez ici, sur la gauche, un projet des Nations Unies. Les scientifiques qui ont participé à ce projet se sont rendus compte qu'ils pouvaient apprendre plus en échangeant des données les uns avec les autres. Donc, il fallait faire des efforts sur le terrain et les formaliser à travers différents organismes et à travers les pays impliqués. Pour en revenir à l'année internationale polaire, eh bien, l'un des projets intéressants était un projet terrestre avec deux meilleurs liens entre les différents scientifiques. Je sais que, par exemple, la France travaille dans certains domaines, plus particulièrement avec des études préparées concernant le Groenland. Je crois que c'est tout à fait dans l'esprit de ce que l'on a évoqué ce matin, avec la prise en compte des changements d'écosystèmes qui coïncident avec les changements climatiques. Je crois que bon nombre des intervenants qui ont parlé de cette année internationale polaire ont dit qu'il ne s'agit pas seulement de changements physiques, mais aussi des changements, par exemple, de la pêche, de la gestion et de tout ce qui implique les changements physiques en eux-mêmes. Le docteur Juji et moi-même ont parlé de différentes façons de relier les stations de recherche entre elles pour mieux comprendre les effets du changement climatique sur les différents écosystèmes. Ce serait une grave erreur économique de penser que chaque écosystème puisse changer de la même façon. Bien sûr, il y a des changements économiques très importants qui sont dus au changement climatique, mais l'on voit aussi des signes de ce que les scientifiques appellent, et je n'arrive pas à me souvenir du terme, parce que c'est un terme que je viens d'apprendre, mais par exemple, si vous vous reposez sur les insectes pour que le pollen soit transmis et que certaines plantes se reproduisent et ces insectes disparaissent, vous pouvez imaginer l'impact que ceci peut avoir. Donc le changement climatique a un impact différent selon l'écosystème et qu'il s'agisse de pollinisation ou d'autres. Deux scientifiques américains ont visité des stations de recherche françaises pour approfondir la coopération. Vous voyez qu'il y a aussi des questions d'observation de la glace maritime, observation des écosystèmes, des changements dans l'Arctique. L'agence américaine a recommandé que l'année polaire se concentre sur l'Arctique et sur surtout des systèmes d'observation. Je crois que c'est un bon début, mais nous avons encore bon nombre de choses à accomplir en Antarctique. Par exemple, l'Antarctique ne s'est pas vu accorder le même niveau d'attention que l'Arctique. Mais d'un autre côté, l'Antarctique a une longue tradition de coopération internationale. Je pense que l'année polaire nous a permis de rattraper le temps perdu. Il est intéressant de comparer comment ces changements ont lieu dans les deux régions. Donc, ce que nous avons appris de tout ceci, et je vais terminer là-dessus, que l'héritage de cette année polaire internationale dépendra de ce qui va se produire à présent. Nous devons construire des partenariats internationaux forts. Nous avons lancé, engagé l'intérêt des jeunes, pas seulement aux États-Unis, mais je sais aussi dans bon nombre d'autres pays, puisque nous avons mené des projets pédagogiques avec ces pays, par exemple au Groenland, durant les derniers été, nous avons eu des semaines passées dans ces stations de recherche. Et ces étés les rattachent à leur classe auxquelles ils font des rapports. Et puis, il y a eu aussi transmission d'informations. Et permettez-moi de conclure rapidement en vous rappelant, si vous ne le saviez pas, que le 6 avril, Hillary Clinton a ouvert le traité antarctique à Washington, qui a été conçu pour fêter 50 années de paix et de science en Antarctique. Et j'essaie de retrouver à présent ma conclusion parce que je crois que le message de Mme Clinton était extrêmement pertinent et intéressant, un message de la part donc de l'administration Obama. Donc elle a dit à cette occasion, le génie du traité de l'Antarctique tient dans sa pertinence, dans sa capacité à relever les défis non seulement du passé, mais d'avoir établi aussi des outils qui reste essentiel dans la façon dont nous abordons des questions urgentes, et une question urgente plus particulièrement, le changement climatique qui concerne tous les continents. Le changement climatique va changer le futur de bon nombre de générations. C'est un phénomène que nous essayons toujours de comprendre. Le traité de l'Antarctique nous montre l'importance des conséquences d'un tel changement et l'urgence de prendre des mesures. C'est un document tout à fait remarquable qui a été mentionné partiellement lors de présentations précédentes. 47 pays ont signé ce traité, dont deux tiers de la population. Enfin, je crois que ces 47 pays représentent les deux tiers de la population de la planète. J'ai mentionné aussi d'autres partenariats. Il y a d'autres questions, d'autres problèmes qui représentent des difficultés, par exemple pour les ministères des Affaires étrangères ou pour les ministères de l'économie. Nous nous félicitons de pouvoir construire sur la base de ce que fait le Conseil scientifique, la Fondation nationale pour la science et toutes les organisations qui ont contribué ici. Lorsque nous avons commencé à réfléchir à cette année internationale polaire aux États-Unis, eh bien, le président de l'ICSU, M. Lukchenko, il est responsable de l'administration sur les questions atmosphériques, et elle se rend bien compte qu'elle doit nous aider à continuer le travail de cette année internationale polaire. Docteur Brezhnev, je suis sûr, aura la même attitude. Donc je crois que nous tournons vers beaucoup de progrès. Le docteur Juji et moi-même sommes tous impatients de voir les retombées de cette année polaire internationale.
Très heureux d'être quelques minutes parmi vous avec Catherine Brezhnev et avec M. Mallory, que je ne connaissais pas, mais j'ai vu la fougue de sa défense. Et je voudrais juste vous dire, moi, ils m'ont mis professeur sur le programme. Je suis député depuis 23 ans et j'étais professeur de biologie moléculaire. Ça n'a rien à voir avec vos sujets. Mais néanmoins, quand je suis arrivé au Parlement, scientifique un peu perdu dans les méandres parlementaires, j'ai pensé que la science devait rentrer au Parlement. Et ça a été avec un certain nombre de parlementaires, dont Christian Gaudin, dont Claude Biro, de tous bords politiques. On a essayé d'établir ces ponts, et ce pont entre les milieux scientifiques et les milieux parlementaires. Et je me souviens du premier accueil de Catherine Brezhnev à l'Office parlementaire. Et aujourd'hui, je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. Et donc l'Assemblée nationale, M. Mallory, est là présente. Le groupe polaire sur l'Arctique, il vient de se constituer seulement, il y a quelques mois. Et il n'a pas encore fait de réunion, mais ça va se développer. Alors, j'ai été amené dans un des premiers rapports de l'Office, en 1989, je venais d'être élu, à travailler sur le développement des activités liées à l'extraction des ressources minérales de l'Antarctique. Je ne vais pas en parler parce que Michel Rocard en a parlé. On avait commencé au Parlement, à mon avis, juste un peu avant. Et c'était un des premiers rapports de l'Office. Claude Lorius a travaillé avec moi à l'époque. Ça a été un des conseillers qui m'a piloté sur ces sujets que je ne connaissais pas. Et on est arrivé à une conclusion, c'est qu'il fallait réserver l'Antarctique comme terre de science. Et ça a bien progressé parce qu'un certain nombre de politiques ont poussé, parce qu'il y avait les mêmes interrogations sur l'Antarctique à l'époque. Alors, ce n'est pas du tout le même sujet. Ce n'est pas du tout les mêmes conditions, ça a été dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'État riverain, il y a des États possessionnés. Et on se retrouve dans une problématique très différente, mais on se trouve aujourd'hui dans une problématique d'urgence écologique. Et ça a été bien rappelé tout à l'heure. Il faut donc faire le lien une nouvelle fois entre la science et la politique si on veut sauver la planète et sauver l'Arctique. Et ce lien entre la science et la politique, il est plus compliqué, bien sûr, que pour l'Antarctique. Il est plus compliqué parce qu'il y a 5 États riverains et des grands États. Quand on parle de Russie, quand on parle de Canada, quand on parle d'États-Unis, quand on parle d'Union européenne via le Danemark et via le Groenland, et quand on parle de Norvège, on a des grands États, 5 États riverains, 8 États qui sont au-delà du cercle polaire. Et on est au carrefour du droit, de la science, de l'économie, de l'écologie et de la politique. Et ces sujets, quand ils sont imbriqués de telle manière, ils sont encore plus compliqués à résoudre. Je pense qu'on les résoudra d'autant mieux que finalement, vous connaîtrez les phénomènes, les scientifiques, et que vous puissiez les faire connaître, non seulement à nous, ce n'est pas suffisant, mais globalement à la population. Je pense qu'il y a une modification de la prise de conscience de la population aujourd'hui, générale, sans qu'il y ait une prise de conscience particulière dans la vie de tous les jours. On se dit de manière très simpliste, il faut sauver la forêt amazonienne, il faut sauver l'Arctique. Mais je ne sais pas si, globalement, dans les prises de décision, et si les prises de décision sont assez vite et rapides pour qu'on traite assez vite et assez rapidement de cette question. Le rapport que j'ai présidé, Jean Jouzel a été là, un des membres du comité de pilotage, j'ai assuré la présidence de la mission sur le réchauffement climatique, on a écrit que c'était le défi du 21e siècle, et je fais un cours sur les grands enjeux scientifiques à l'Institut d'études politiques de Paris, et Jean va venir d'ailleurs bientôt, et dans ce cours, je fais un cours sur l'échelle des risques. Et le risque qui est perçu aujourd'hui, alors très fortement en tête par la totalité des étudiants, et quand on le fait dans les classes secondaires, c'est la même chose, c'est effectivement ce risque du réchauffement climatique lié et associé à la démographie. Et donc, ça veut dire qu'il y a une perception très claire aujourd'hui de cela. Je ne suis pas sûr qu'on prenne les décisions à la mesure de la perception. Néanmoins, on a commencé, et je vais parler après des questions qu'on pose aux scientifiques, On a commencé dans la loi sur le Grenelle de l'environnement, on a enfoncé une porte, parce qu'on était convaincus, M. Mallory. On a enfoncé une porte en créant d'abord, on a fait passer à l'Assemblée nationale l'observatoire sur l'Arctique. Christian, au Sénat, a repris le ballon, et on n'est pas du même parti politique. Il a repris le ballon et il est allé un peu plus loin. Et j'espère que dans la deuxième lecture, j'ai un amendement qui est là, et qui est déjà prêt. Et j'espère que dans la deuxième lecture, on ira encore plus loin dans l'ouverture de cette porte, parce qu'il faut effectivement, non seulement l'Observatoire scientifique international et la gouvernance scientifique, mais il faut également, sur un sujet comme celui-là, que les pays se parlent pour que, sur un certain nombre de points, on puisse non seulement avoir des questions, mais également donner des éléments de solution. Alors, les questions qui sont posées aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe en Arctique, mais première question que je poserai, est-ce qu'aujourd'hui, les phénomènes de rétroactivité, ils sont aussi importants que ceux qu'on indique, c'est-à-dire que au-delà de la constatation qui fait que chaque année, vous voyez qu'il y a une zone de plus en plus grande de glace qui n'est plus glacée pendant l'été, ce qui accroît bien sûr l'absorption de la chaleur, ce qui accroît la température, est-ce que ça va avoir d'autres effets? C'est-à-dire, est-ce que ça va avoir des effets sur les courants marins? Est-ce que ça va avoir un certain nombre d'effets sur la densité de l'eau, sur la fonte de l'eau dans ces zones-là? C'est une des premières questions. Deuxième question, la fonte du pergélisol ou du permafrost, est-ce qu'il y aura des bombes à retardement? C'est-à-dire, est-ce qu'on a dans ces zones du méthane qui est enfermé et qui pourrait, en étant relargué, accroître encore plus fortement le phénomène du réchauffement climatique? Ces questions-là, il est évident qu'elles sont importantes et que la protection et la préservation de l'Arctique en lien avec sa population, et ça a été dit tout à l'heure, c'est la question majeure. Mais que de cette question et du changement de la nature aujourd'hui de cet océan, eh bien, il va y avoir des exploitations et la volonté d'exploiter des ressources encore plus fortes. Les ressources terrestres ne sont pas infinies. On est arrivé au pic d'un certain nombre de ressources naturelles. C'est le cas pour un certain nombre de métaux déjà aujourd'hui. Ce sera le cas, je ne rentre pas dans la polémique sur le pétrole, sur le gaz bientôt. Ce sera le cas sur l'uranium un peu plus loin, dans une période encore un peu plus lointaine, et le charbon peut-être encore une période plus lointaine, mais on est arrivé avec des ressources finies. La tentation d'aller chercher des ressources dans des zones qui sont des zones comme l'Arctique va être de plus en plus forte. Et si jamais on n'a pas discuté de ces questions avec de bonnes connaissances scientifiques au niveau international, on n'y arrivera pas. Ce qui me fait dire, c'est qu'il faut arriver à une meilleure gouvernance multilatérale pour qu'on puisse globalement agir, piloter sur cette zone qui n'est pas une zone nationale. Et quand on dit ça, et je dis ça devant notre collègue américain, et quand on dit ça au niveau national, on est exactement comme dans la problématique du changement climatique. On nous dit, est-ce que finalement, de traiter cette question au niveau national, on a la possibilité d'agir et d'interagir? Non, sans doute au niveau international, mais oui, sans doute si on est persuadé que finalement, c'est en essayant de convaincre, non seulement dans son pays, mais dans la totalité des pays du monde, qu'on arrivera globalement à sauver notre planète. Et c'est ce combat qu'on est un certain nombre à mener, et c'est finalement pour témoigner de cela que Christian, j'ai été rapide, j'ai tenu mon temps, j'ai tenu à être parmi vous cet après-midi. Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter le docteur Karl Herb, le professeur Jean-Yves Ledéo et le docteur Gérard Jugy sur les initiatives que prendront les gouvernances politiques et scientifiques sur les enjeux du réchauffement climatique. Vous pouvez également écouter les trois autres retransmissions qui traitent pour leur part de l'homme et l'environnement, des évolutions à court et long terme sur le climat, les glaces et les océans, et du changement global et de la biodiversité polaire. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.